Le peuple répond Amen. Et la distribution et la communion générale des choses consacrées, donc les sancta, se fait à toute l'assistance. La part des absents leur est portée par les diacres. Ceux qui sont dans l'abondance et veulent donner font leur largesse, et ce qui est recueilli est remis à celui qui préside. Et il assiste les veuves, les orphelins, les malades, les indigents, les prisonniers et les étrangers. En un mot, il prend soin de soulager tous les besoins. Si nous nous rassemblons le jour du soleil, c'est parce que ce jour est celui où Dieu, tirant la matière des ténèbres, commença à créer le monde, et aussi celui où Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita d'entre les morts. Car les Juifs le crucifièrent la veille du jour de Saturne, et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, il apparut à ses disciples, leur enseignant ce que nous avons livré à vos méditations. Donc, voyez, ce qui est intéressant, c'est donc de voir que le rassemblement au milieu du deuxième siècle a lieu désormais le matin du premier jour, c'est-à-dire le matin où les disciples, le dimanche matin, et donc très tôt, parce que au soleil levant. Pourquoi? Parce que le dies solis, il n'est pas férié hein, dans l'Empire. Donc on se réunit avant sa journée de travail, au moment du soleil levant. Donc du coup, toute le symbolisme de la lumière, du soleil levant, enfin, dans ces pays en plus très lumineux, hein, enfin très, très, très ensoleillés, le symbolisme du soleil levant qui dissipe les ténèbres, c'est toujours symbole de la mort, hein. Donc c'est le troisième jour. Donc on commémore le troisième jour et Justin ajoute que ce troisième jour est aussi la mémoire du premier jour, c'est-à-dire du jour de la création. Et il deviendra du coup aussi le jour qui anticipe le huitième, c'est-à-dire 7 plus 1, le jour qui clôt l'histoire, qui est le jour de l'eschatologie, le jour eschatologique. C'est pourquoi on va du coup baptiser pour la renaissance définitive des spirituels des baptisés, on va les baptiser dans cette nuit du jour de Saturne au jour du soleil, donc dans la nuit, voilà, dans la nuit de Pâques, pour qu'ils soient comme précipités dans le huitième jour aussi. Pourquoi les baptistères antiques sont souvent octogonaux? Parce qu'il y a 7 plus 1, le huitième jour, qui est le premier jour, et qui est en même temps le troisième, c'est-à-dire celui de la résurrection. Et alors, vous voyez aussi une chose qui plairait à M. le curé, et à tous ceux qui s'occupent du denier et tout ça, c'est que la quête est requise pour la validité de l'Eucharistie. Parce que ce qu'on apporte, ça nous est rendu sous la forme de l'Eucharistie. On apporte du pain et du vin, etc. Parce qu'à l'époque, les dons étaient faits en nature. Mais en même temps, nous nous apportons nous-mêmes et nous sommes rendus à nous-mêmes par l'Eucharistie. On s'apporte tel qu'on est, avec des choses qu'on donne, qui sont le symbole de notre donation à Dieu, et Dieu se donne à nous sous la forme de la communion. Vous voyez, il y a un échange des dons dans l'Eucharistie. Et ce qui fait que l'Eucharistie, que l'Église est eucharistique, c'est tout le sujet de la thèse que j'ai traduite de Ratzinger, là, 400 pages, c'est que la célébration de l'Eucharistie est indissociable de la charité fraternelle. Vous voyez? Donc, on n'apporte pas simplement de quoi faire du pain et du vin, enfin, même si les Dupré apportent le vin. Voilà. Et que notre. Enfin, la boulangère, c'est pas la boulangère qui apporte les hosties. Mais ce qu'on apporte, vous voyez, sert au bien de tous. Et on n'a pas d'un côté, je dirais, le rite eucharistique, et puis de l'autre côté, on aurait. Je ne sais pas, le bureau de bienfaisance ou le ministère du welfare state, mais on a les deux dans la même chose, voyez. Ce qui est apporté, ce qui était apporté autrefois à l'Eucharistie, était ensuite redistribué à ceux qui en avaient besoin. Là aussi, Ratzinger insiste beaucoup en disant que la charité ne doit pas être abandonnée aux pouvoirs publics ou à des spécialistes, mais elle doit être vécue par tous. Et c'est ce que nous-mêmes nous vivons en finançant l'Église d'une certaine manière. Et dans les pays où il y a l'impôt, le Kirchensteuer, l'impôt ecclésiastique, il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Tout ce qui passe par l'État, c'est une pompe aspirante refoulante. Hein. Donc, c'est pas l'État qui vendrait, je ne sais pas moi, Charlottenburg ou Sans Souci pour... voilà. Non, l'État, il prend de l'argent d'un côté, il le redistribue. Donc, ce qu'il donne à l'Église, c'est ce que ce que les gens ont bien voulu payer en termes d'impôts. L'État allemand ne fait, ou autrichien, ou suisse, etc., ou canton suisse, ne sert simplement de percepteur du denier, c'est tout. Et les gens sont inscrits sur les listes. S'ils sont catholiques, ils font leur don, et c'est l'État qui gère le don et qui le redistribue à l'Église qui a été... voyez. Quand on dit que c'est payé par l'État, c'est faux. C'est payé par les contribuables qui sont avant tout les membres des églises. Donc, et c'est. Sauf que voilà, les gens n'ont pas trop à se poser de questions, parce qu'il y a un taux qui est fixé par des négociations entre les églises et l'État. Et puis les gens, bon, bah, ils donnent ce qui est marqué. Et puis ils ne se posent pas de mille questions. Moyen encore, ça ne les empêche pas de donner encore à autre chose. Mais pour vous dire que, vraiment j'insiste parce que Ratzinger vraiment le montre dans sa thèse, quand on parle de corps mystique, vous savez, corps mystique, s'en est venu au XXe siècle à désigner l'Église. Mais au Moyen-Âge, ça désignait l'Eucharistie. Et ce qui veut dire que jusqu'au Moyen-Âge, globalement, l'Eucharistie et l'Église, ce n'était pas distingué fondamentalement. Et pas parce que les gens étaient bêtes et n'avaient pas compris qu'il y avait une distinction entre le rite d'un côté et puis le corps social de l'autre, mais tout simplement parce qu'il n'y avait corps social que parce qu'il y avait l'Eucharistie qui en était le lien, et il n'y avait Eucharistie que si ceux qui y participaient étaient prêts à être, globalement, comme dit saint Paul, tout à tous. C'est-à-dire pas simplement chacun dans son petit coin, juxtaposé. Vous savez, saint Augustin a commencé par moi et mon Dieu dans les soliloques, et il a fini comme pasteur d'une église, hein, où tout donné à ses fidèles. Donc il y a véritablement une dimension communautaire dans l'Eucharistie qu'il ne faut pas perdre. Et ça nous gâte peut-être plus, nous tradis, parce qu'on a tendance plutôt à être des petits juxtaposés dans nos liturgies. Chacun qui fait son oraison dans son coin. Comme je dis souvent, la géographie d'une masse ressemble à la physique des gaz, c'est-à-dire que les molécules se répandent dans tout l'espace disponible. Alors, c'est un peu vrai aussi avec la réforme liturgique, où les gens font un peu chacun n'importe quoi dans leur côté, hein, aussi. Ils communiquent comme ci, ils communiquent comme ça, bon, etc., etc. Il n'y a pas beaucoup d'unité non plus. Mais justement, vous voyez, il n'y a pas que l'unité visible, hein, dans le rite. Il y a aussi le fait de se comporter comme frère, en fait. Ce qui est même vraiment, pour saint Augustin en tout cas, c'est une condition de validité de l'Eucharistie. Et c'est ce qui reprochera aux donatistes. En particulier, ils disent comment vous pouvez prétendre célébrer l'Eucharistie alors que vous nous rejetez comme n'étant pas vos frères, comme vous nous rebaptisez, etc., etc. Donc vous niez la fraternité chrétienne. D'ailleurs, Ratzinger fera plus tard un petit livre qui s'appelle Christliche Brüderlichkeit, Fraternité chrétienne, voilà, qui est très intéressant, qui reprend ses idées. Voilà, donc ça c'est. Et ça, c'est un truc qui est vraiment compris dans l'Antiquité chrétienne, hein, cette dimension, cette co-appartenance du rite et de la charité fraternelle. Alors ensuite, on continue, et il achève même. Si donc cet exposé vous paraît raisonnable et sincère, donc toute cette apologie, prenez-le en considération. S'il vous semble peu sérieux, traitez-le comme une bagatelle, dédaignez-le. Mais du moins, ne condamnez pas des innocents comme vous frapperiez des ennemis coupables. Ne les envoyez pas à la mort, car, nous vous le prédisons, vous n'éviterez pas le jugement de Dieu si vous persistez dans votre iniquité. C'est quand même bien envoyé. Hein. Faites ce que vous voulez, mais néanmoins, faites attention au retour de bâton. Pour nous, nous nous contenterons de dire que la volonté de Dieu se fasse. Nous pourrions bien vous supplier, au terme d'une lettre du très grand et très illustre César Adrien, votre père, de nous accorder une information régulière telle que nous la réclamons. Cependant, la constitution d'Adrien ne sera pas bon, etc. etc. Donc, la grande idée, c'est cesser... C'est-à-dire qu'il y a eu des ajouts. Il y a eu des ajouts dans le texte. La grande idée, c'est cesser de nous condamner sans raison. Au moins pour... Voilà, pour des... Que les crimes soient vraiment dits. Alors en fait, le seul crime que reconnaît l'État romain, c'est la haute trahison, du fait de paraître saper ce qui fait l'unité, le ciment de l'État. Et alors, vous avez la lettre d'Adrien qui a été rajoutée à la fin du texte, qui d'ailleurs ne s'adresse pas à Justin, on ne sait jamais, on ne sait pas si Adrien a lu le texte, hein, ou Antonin. J'ai reçu la lettre du Clarissime. Alors, les Clarissimes, c'est comme les... Je crois que c'est le niveau sénatorial, il me semble. Hein. Il y a les illustrissimes, les clarissimes. Clarissimes, c'est peut-être les équites, là. C'est peut-être les chevaliers, je ne sais plus. Donc, j'ai reçu la lettre du clarissime Serenius Granianus, à qui vous avez succédé. Le fait me semble de nature à demander une enquête pour éviter les troubles et ne pas laisser prise à la calomnie. Si les hommes des provinces veulent donner suite à leurs pétitions contre les chrétiens et les appeler devant votre tribunal, qu'ils s'y rendent, mais qu'ils s'abstiennent de pétitions et de vagues récriminations. Il est bien plus convenable, s'il y a une accusation intentée, que vous en connaissiez. Ainsi donc, si on accuse les chrétiens et qu'on démontre qu'ils ont agi contre les lois, jugez-en selon la gravité du délit. Mais si, par malheur, ce n'est qu'un prétexte de calomnie, faites une enquête sévère de cette cruelle conduite et ayez soin de tirer vengeance des calomniateurs. Donc on retrouve la même idée que celle de Trajan. Et aussi, donc, une lettre d'Antonin au peuple d'Asie, donc le dédicataire de la première apologie. Alors je vous la lis aussi. L'empereur César Titus Elius Adrien Antonin Auguste Pieux, grand pontife, tribun pour la 15e fois, consul pour la 3e, père de la patrie, au peuple d'Asie, salut. Je croyais que les dieux se chargeraient d'empêcher que de pareils gens restassent cachés, car s'ils le pouvaient, ce serait à eux, bien plutôt qu'à vous, de châtier des hommes qui refusent de les adorer. Vous les tourmentez, vous accusez leur doctrine, vous les taxez d'athéisme, vous leur imputez une foule de griefs que vous ne pouvez prouver. C'est pour eux le plus grand bonheur de mourir pour leur doctrine. Ils triomphent de nous puisqu'ils nous jettent leur vie plutôt que d'obéir à ce que vous leur demandez. Quant au tremblement de terre présent et passé, vous n'avez pas droit de donner des avis, vous qui tremblez lors de ces événements. Comparez votre conduite à la leur. Ils ont infiniment plus de confiance que vous en Dieu. Quand la terre tremble, vous semblez avoir oublié qu'il y a des dieux. Vous négligez leur temps, vous ne pensez pas au culte, et vous les persécutez, ceux qui honorent la divinité. Vous les poursuivez jusqu'à la mort. D'autres gouverneurs de province ont écrit à mon divin père au sujet de ces hommes-là. Il leur a répondu qu'il ne fallait pas les inquiéter, tant qu'on ne les surprendrait pas à tramer quelque chose contre l'Empire romain. À toutes les demandes que l'on m'a adressées à ce sujet, j'ai répondu dans le même sens que mon père. Si donc quelqu'un accuse un de ces hommes et lui intente une action pour sa qualité, qu'on renvoie l'accusé absous, quand même sa qualité serait prouvée et que l'accusateur soit puni. Donc vous voyez, là, c'est pas le nomen Christianus n'est plus systématiquement condamné, puisque il faut désormais prouver le crime pour un crime contre l'Empire de haute trahison ou un crime qui relève du pénal pour que les chrétiens soient condamnés. Alors, vous voyez quand même, il y a un peu d'ironie dans la lettre d'Antonin.
Ça a fluctué.
Voilà, alors, selon les empereurs, puis alors selon souvent les gouverneurs, parce que comme on n'avait pas Internet, et il n'y avait pas de Twitter pour dire voilà ce qu'il fallait penser, ce qu'il fallait faire, les empereurs, les gouverneurs prenaient des initiatives. Hein, ils étaient... on avait des vrais gouverneurs, quoi. On n'avait pas des. Oui. Mais alors, ce sont quand même déjà des personnages de qualité, ces gouverneurs. Ce sont des administrateurs pour un grand nombre qui sont honnêtes. Et puis, vous voyez, quand Pline écrit à Trajan, on voit bien quelqu'un qui est conscient du bien public et qui demande des directives. Donc voilà pour cette première apologie qui est intéressante. Hein. Alors, je crois que j'avais terminé sur la première apologie. Alors il y a une seconde apologie qui est adressé au Sénat romain ou à Marc Aurèle. Elle répond, et on le voit au début du texte, et là vous n'avez pas le texte, elle répond à l'actualité. Le préfet Urbicus avait fait exécuter 3 chrétiens sur le seul motif justement de leur appartenance, c'est-à-dire le nomen Christianum. Voilà, ils sont chrétiens, donc ils sont coupables. De quoi ? Simplement d'être chrétien. Et être chrétien, c'est être coupable de quoi ? On ne sait pas. Mais voilà, on déclare que être chrétien, c'est être criminel. Tertullien dénoncera ce nominalisme d'avant la lettre. Alors Justin, si tu... Alors, les persécutions dans le plan de Dieu. Vous avez vu dans la lettre d'Antonin, hein, ils disent de toute manière, on est vaincu, on est battu dans les deux sens. C'est-à-dire, si on les tue, ils vont en tirer, c'est pas pour une défaite, c'est pour une victoire. Donc le seul moyen qu'on a, c'est de les torturer pour les faire abjurer. Donc